Bon, on va passer au sérieux. Mettre ça de côté. Amen. Amen. J'espère que vous êtes remplis de joie ce matin, n'importe les circonstances, parce que la joie, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. C'est Dieu qui le donne. Il nous donne la joie au milieu des tribulations, au milieu même du deuil. Le Seigneur nous donne la joie. Je sais, j'ai expérimenté ça moi-même quand mon père est décédé et puis que j'avais, quand même, je ne comprenais pas. Je me suis dit, Seigneur, comment ça se fait? Je devrais pleurer, mais j'avais une joie dans le cœur. J'étais très triste que j'avais perdu mon père. Mais il y avait une joie qui tournait dans mon cœur. Et puis, alors j'étais capable de faire ce que je devais faire. J'avais amené la parole un petit peu dans l'Église catholique, mais j'avais amené la parole quand même. Et puis, ma sœur, après, qui n'est pas chrétienne, ma sœur a dit, « Ah, oh, elle dit, c'est Dieu en lui. » Elle dit, « C'est pour ça qu'il est capable de faire ça. » Alors, les gens reconnaissent que nous avons la joie du Seigneur. Amen. Ce matin, on va poursuivre qu'est-ce que j'avais emmené la dernière fois que j'ai venu concernant les cul-de-sac et que on a regardé dans Exode chapitre 13 concernant les enfants d'Israël qui a été délivré de l'Égypte et puis que Dieu les avait miraculeusement enlevés de là et puis mais Dieu les avait conduits. Et puis, on a bien lu que Dieu, c'est Dieu lui-même qui les avait conduits dans une place de ce qui était coincé. C'était un cul-de-sac. Il y avait la mer rouge qui était là. Et puis, il y avait les montagnes autour d'eux. Puis, il y avait Pharaon puis son armée maintenant qui avait changé d'idée puis qui voulait vraiment détruire les Israélites ou les ramener en esclavage. Fait qu'il était de toutes les bords dans un cul-de-sac. Il n'y avait aucune sortie. Mais c'est là que Dieu nous veut parce qu'il veut montrer qu'est-ce qu'on a chanté ce matin. Il veut montrer sa gloire. Et au milieu des choses que nous autres, on n'est pas capable de faire, Dieu veut le faire pour nous. Et alors, on veut poursuivre cela ce matin, aller dans Exode chapitre 14 et j'aimerais lire quelques versets, les premiers 10 versets de Exode chapitre 14, si vous êtes prêts, on va lire ces versets-là avant de continuer. OK. Exode 14, versets 1 à 10, nous dit ceci, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détourne et qu'il campe devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait ?» en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services. et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte et il y avait sur tous des combattants, des soldats. Verset 8, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, elle est inspirée par ton Saint-Esprit pour nous. Et alors, ce matin, notre prière, c'est inspire-nous, Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, à mettre toutes nos œufs dans un panier, à mettre toute notre confiance dans ta parole, toute notre confiance dans ton caractère, toute notre confiance dans ta personne, Seigneur, sachant, Seigneur, que nos vies sont entre tes mains, tes bonnes mains. Alléluia. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur, par cette parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Le titre de mon message, merci Seigneur pour mes genoux. Merci Seigneur pour mes genoux. Et puis, Exode 14, 10, Pharaon approchait les enfants d'Israël avec les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils s'en venaient à grands pas derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Bande de peureux. Mais c'est normal de voir une armée qui vient pour t'attaquer et te détruire. Une grande frayeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent à l'Éternel. Ils ont fait la bonne chose, crier à l'Éternel. Charles Spurgeon, un des plus grands prédicateurs, dit à propos du diable, « Le grand oppresseur ne t'a pas oublié. Il conçoit de te capturer et il veut refaire de toi son esclave. » C'est ça que Pharaon voulait faire. Il voulait refaire du peuple de Dieu des esclaves, ses esclaves. Et c'est qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec nous autres. S'il ne peut pas enlever notre salut, il va essayer d'enlever notre joie. Et alors, un autre auteur, Robert Morgan, dit ceci, « Certaines situations nous offrent deux options, soit la panique ou la prière. Pour moi, j'ai tendance à paniquer. » Il est honnête, en tout cas, de dire cela. Matthew Henry, un commentateur biblique, dit à propos des enfants d'Israël qui sont poursuivis par les Égyptiens, il dit ceci, « Leur peur les a poussés à prier et cela a eu un bon effet. » Dieu nous amène parfois dans des difficultés pour nous amener sur nos genoux. Et cela est une bénédiction. Israël panique, comme vous savez, sur le bord de la mer Rouge. Ça me fait penser que les disciples aussi ont paniqué sur la mer de Galilée lorsque la grande tempête est venue. Et nous-mêmes aussi, de même, paniquons lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne va pas comme on aimerait. Et lorsqu'on ne peut pas avancer, et lorsqu'on ne peut pas reculer comme le peuple d'Israélite ne pouvait pas avancer, ne pouvait pas reculer. Lorsque dans notre vie, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer, on ne peut pas se détourner, il n'y a pas de détour. On est dans un cul-de-sac, c'est le temps pour se plier. Le temps pour se plier. Merci Seigneur pour mes genoux. On peut prier. Et on doit prendre l'habitude que la prière, ce n'est pas la dernière chose, sa liste. Ça devrait être la première chose, sa liste, avant toute décision, avant toute circonstance, avant tout ce qui est devant nous autres. Le psalmiste déclare ceci, « Dieu, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » C'est qu'est-ce que Dieu fait? Et nous avons besoin d'apprendre également à crier à l'Éternel. On ne parle pas ici de notre prière quotidienne, nos prières habituelles, nos prières régulières qu'on fait, ordinaires qu'on fait. Non, on ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle de nos temps de crise. Des temps de crise dans nos vies. On parle de nos événements qui brassent nos vies. On parle des choses qui font même trembler nos âmes. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, ça nous dit. Et puis on peut s'identifier avec eux autres. Nous autres aussi, des fois, on a une grande frayeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils crièrent à l'Éternel. Mais ne manquez pas ceci, le résultat de qu'est-ce qu'ils ont fait, de crier à l'Éternel. Parce que lorsque son Église crie à l'Éternel, lorsqu'on prie à l'Éternel, Dieu nous vient toujours en aide. Lorsqu'on prie à l'Éternel, tôt et tard, on peut dire ça comme un dicton, tôt et tard, mais Dieu n'est jamais tard. Mais tôt et tard, Dieu répond aux cris de ses enfants. Tout le temps. Et Dieu est là pour vous. Ce matin, il est là pour nous. Qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande frayeur. Mais oui, mais la prière a une grande efficacité. Merci Seigneur pour mes genoux. Dites-le. Merci Seigneur pour mes genoux. Amen. Alors, remarquez ce matin trois choses que je veux vous partager à l'importance de notre texte qu'on a lu aujourd'hui. La première chose, c'est que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel l'importance de la prière concertée. Concertée, c'est là qu'on prend le mot concert, un concert, tous ensemble en harmonie, qui joue un instrument. Tous ensemble, c'est une harmonie et une bonne senteur aux narines de notre Dieu. Même chose pour la prière. Et une prière, l'importance de la prière, concertée, les enfants d'Israël, pas un ou deux ou trois, mais les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ça aurait dû être une chose à voir. Tout ensemble, concertés, unis. C'était une prière unie, c'était dans une seule voix. Ils criaient à l'Éternel. C'était comme un signal de détresse vers le ciel. Dans leur grande angoisse, ils criaient ensemble à l'Éternel. L'importance de prier, oui, mais l'importance de prier en Église. L'importance de prier, Solange l'a mentionné, tantôt, lorsque deux ou trois sont assemblés, deux ou trois ou plus sont assemblés en son nom. Dieu est au milieu d'eux. D'une façon spéciale. Je veux dire, Dieu est avec nous autres en tant qu'individus, bien sûr. Mais il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le spirituel lorsque deux ou trois sont assemblés en son nom. Et alors, la prière, Dieu exauce la prière. Il y a l'histoire d'un missionnaire docteur qui servait en Afrique dans la brousse. Et on lui emmena un professeur d'école sur une civière médicale qui ne pouvait pas marché. Des parasites avaient attaqué ses pieds qui étaient doubles en grosseur. Il ne pouvait même pas se tenir debout. Le docteur a examiné le patient et a dit, « La seule façon de te sauver la vie, c'est de couper tes deux jambes au genou. »
Wow!
Le patient, découragé, dit, « Mais il n'y a aucune place dans ma tribu pour quelqu'un sans pied. Comment puis-je prendre soin du jardin et de mon bétail? Impossible! » Le patient sort son Nouveau Testament très usé et demande le docteur de lire Jacques 5,16, la prière fervente du juste en grande efficace. Et dans le langage de sa tribu, le verset lisait comme ceci, « La prière très forte d'un homme qui est en règle avec Dieu est la plus efficace. » La plus efficace. Le patient demande au docteur, « Docteur, crois-tu? Crois-tu qu'est-ce que le verset nous dit? » « Oui, dit le docteur, bien sûr. Le crois-tu? » Le patient dit, « Le crois-tu assez pour y mettre ma vie en jeu? » Le docteur dit, « Oui. » Alors les deux se sont mis d'accord et ils ont prié ensemble. Lorsque deux sont assemblés en mon nom. Ils ont prié ensemble. Après des mois de bains, des bains de pieds, des injections, de la thérapie, des traitements, ils ont vu une amélioration dans ses pieds. Après 7 mois, le patient clopinait dans les corridors de l'hôpital. Après 1 an, il marchait sans douleur. Dieu l'avait guéri complètement. Il n'a pas perdu ses pieds. Et alors, Dieu ne dit pas oui à tout ce que nous demandons, mais il est toujours à l'écoute. Il est toujours à l'écoute, et je dirais spécialement lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est à l'écoute spécifiquement. Alors, l'importance de la prière concertée. Lorsque Dieu a répondu la prière concertée des Israélites ici sur le bord de la mer Rouge, dans un culte de Saxe, ce n'était pas parce qu'ils croyaient tellement que Dieu était pour répondre. Ce n'était pas à cause de leur grande foi. Ce n'était pas à cause de leur grande spiritualité. Ce n'était pas à cause de leur grande maturité dans le Seigneur. Ben non, on ne veut pas que la gloire soit rendue à l'homme. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levant les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Mais on a lu cela, mais le prochain verset intéressant qui nous dit, « Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Alors, ils crièrent à l'Éternel, mais ils ne croyaient pas leur prière. Ils ont prié, mais ils ne s'attendaient pas au miracle, à l'action de Dieu, que Dieu était pour répondre, que Dieu était pour venir en aide. Et alors, malheureusement, c'était une bonne chose dans un sens, parce que Dieu était pour avoir toute la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et Dieu a été glorifié au milieu d'un peuple qui n'était pas beaucoup croyant. Ça me bénit de savoir que même dans ma faiblesse, même dans mon manque de foi, même quand je trébuche, même quand que je fais échec, quand je crie à l'Éternel, il va répondre quand même. Pourquoi? À cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde, à cause de sa grâce, pas à cause de nous autres. Bien sûr, il nous aime. Et son amour le pousse à venir nous venir en aide. Alors, soyez rassurés aujourd'hui que Dieu est là pour nous n'importe. Et alors, ils ont prié. Thomas Watson dit ceci, « La prière est la flèche et la foi est l'arc par lequel nos requêtes montent au ciel. Elle dirige la flèche de la prière, la fait voler plus vite et elle perce le trône de Dieu. » Et alors, la prière, c'est la flèche, mais la foi, c'est l'arc. Et on a besoin d'avoir confiance dans qu'est-ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que la parole nous dit, qu'est-ce le caractère, la personne de Dieu. Et alors, dans nos temps de crise, lorsque nos cœurs sont brassés et lorsque nos âmes tremblent, trouvons quelqu'un qui veut s'unir avec nous autres. Quelqu'un qui veut s'unir. Trouvons quelqu'un, appelez quelqu'un, allez voir quelqu'un. Peux-tu, veux-tu prier deux, trois personnes? Veux-tu prier avec moi? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de la main de Dieu qui va venir en aide. Peux-tu prier avec moi la prière concertée? On a besoin de cela dans nos vies, à être concertés ensemble. Et prions à celui qui accorde une grande miséricorde et qui donne librement sa grâce dans nos besoins. Et on a besoin de venir. Et alors, c'est la première chose qu'on remarque, que je remarque ici, c'est l'importance de la prière concertée. Ils, les enfants d'Israël, crièrent à l'Éternel, ensemble. Et alors, vous allez avoir des réunions de prière au mois d'août. Soyez concertés dans les requêtes de prière que vous allez avoir, que vous puissiez dire oui et amen ensemble et prier. Priez comme vous le faites et savoir que Dieu entend et que Dieu va venir en aide. Alléluia, c'est une opportunité pour vous en tant qu'Église, l'Église de Christ, de faire un job spirituel dans le Seigneur, c'est-à-dire d'amener au trône de sa grâce vos requêtes, mais de l'amener pas tout seul, mais être ensemble. En tant qu'Église, si vous êtes deux, tant mieux. Si vous êtes trois, encore mieux. Mais si vous êtes plus, encore beaucoup mieux. Et qu'on soit concertés. Deuxième chose, l'importance de garder le silence. On a prié, on a crié, on a pleuré, on a déversé nos larmes, on a déversé nos requêtes. Maintenant, l'importance de gardez le silence. Exode 14, versets 13 et 14 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra, pas avec vous, pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Il y a un temps d'où ce qu'on pleure devant nous. Il y a un temps d'où ce qu'on demande. Il y a un temps d'où ce qu'on on se défoule dans sa présence. C'est merveilleux qu'on peut venir et se défouler, se vider de nos fardeaux. Après ça, il y a un temps de garder dans sa présence le silence et dire, « Maintenant, Dieu, tu as entendu ma prière, tu as entendu mes prières, tu as entendu nos prières maintenant, Seigneur. » on va voir, parce que Dieu, l'Éternel, Moïse dit, combattra pour vous et vous gardez le silence. Attendre, c'est dur, hein? Attendre, patienter, lui faire confiance, croire en lui. Je ne peux pas résoudre tous mes problèmes, c'est sûr, c'est sûr. La majorité du temps, je ne peux pas, mais guérir mes blessures, je ne peux pas faire ça. Et éviter toute crainte, je ne peux pas éviter toute crainte dans ma vie. Mais une chose que je peux faire confiance en mon Dieu. Oh yes, je peux faire confiance en mon Dieu. Je ne peux pas faire l'impossible, mais je peux faire confiance à celui qui peut faire. Je ne peux pas faire, mais je peux faire confiance en celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow! Wow! Hein? On ne peut pas. On ne peut pas faire qu'est-ce qu'on aimerait faire. Oh, j'aimerais donc ça. On ne peut pas. Mais on peut faire confiance à celui qui peut faire. Il peut faire. Et Dieu nous demande à faire cela. Moïse a dit aux Israélites, « Ne craignez rien. Restez en place. » Regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordée en ce jour, car les Égyptiens ne reviendront plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ne craignez rien. Et alors, si vous êtes coincé dans une place difficile présentement, peut-être c'est le temps de garder le silence. Gardez le silence, peut-être est la chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il combattra pour vous. Combattra pour vous. Amen. Vous savez, des fois, le fardeau est lourd. Et on continue à prier, 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 prier. Mais si on s'est défoulé devant le Seigneur, si on s'est vidé devant le Seigneur a entendu. Mais nous, on a besoin de lui faire confiance. Et garder le silence, parce qu'il combattra pour nous. Alors, c'est ces deux choses-là. L'importance de la prière concertée. Trouvez-vous quelqu'un pour prier avec. Venez les mercredis pour la prière, afin que vous ayez une prière concertée ensemble. L'importance de ensuite garder le silence, ça ne veut pas dire de ne plus prier, ça ne veut pas dire de ne pas parler. Mais vous savez ce que je veux dire, garder le silence, ça veut dire maintenant, Seigneur, je mets ma confiance en toi, je mets toute ma confiance en toi maintenant, parce que je sais que tu m'as entendu, je sais que tu as écouté et je sais que tu réponds. Tu vas, you're going to work it out. Tu vas le faire. Amen. Alors, c'est d'avoir confiance. La troisième et dernière chose, l'importance de ne pas craindre la peur. Les gens dans le monde aujourd'hui ont tellement de grandes craintes à cause de toutes les choses qui se passent globalement. Dieu voulant, je vais emmener quelques prêches là-dessus. Aujourd'hui, les signes des temps, les signes majeurs qu'on voit aujourd'hui, et vous les connaissez, vous les savez, mais les gens meurent de peur, sont remplis de crainte. Mais nous savons la fin de l'histoire, n'est-ce pas? Si vous avez lu la Bible, hein? Vous connaissez la fin de l'histoire. Vous savez que la victoire est trouvée en Jésus-Christ. Amen. L'importance de ne pas craindre. Ces paroles, les paroles « ne crains point » sont trouvées 107 fois dans l'Ancien Testament, 42 fois dans le Nouveau Testament. Wow! Alors, Dieu dit souvent à son peuple « ne crains point, ne crains point, ne crains point ». Et ça me dit deux choses, au moins deux choses. Première chose, ça me dit que c'est une condition commune chez les humains. C'est une condition commune chez nous autres, de craindre. C'est une raison pourquoi Dieu dit tellement « ne crains point, ne crains point, ne crains point ». Combien de fois qu'on a cherché les Écritures et Dieu nous dit « oups, ne crains point ». OK. la première chose. La deuxième chose, c'est, ça me dit que c'est une grande priorité pour Dieu. Parce qu'il l'a, il le dit tellement souvent, c'est une priorité pour lui de nous dire, de nous réconforter avec ses paroles, « Ne crains point. » Et alors, le Seigneur veut que nous soyons en contrôle de nos émotions. Et cela, c'est difficile pour nous. Même le mot « émotion », avez-vous remarqué, le mot « émotion » a le mot « motion » dedans. On veut faire quelque chose. On veut agir d'une façon « motion », mais nos émotions sont souvent comme un manège. J'en ai-tu qui ont peur d'embarquer dans un manège? Oh, moi, j'aimais ça quand j'étais jeune, mais maintenant, j'aime plus ça. Mais on s'est embrouillé un peu, mais je ne sais pas si vous voyez le visage de la petite fille. Ah, je dirais qu'elle a une crainte. Hein? Elle a peur! Puis la mère qui est là avec son bas pour protéger sa petite fille, même elle aussi, elle est remplie de crainte. Elle a peur. Monte, descend, les hauts, les bas. Dans nos vies, des fois on est fâché, des fois on est heureux, des fois on est rempli d'amour, des fois on devient amer, des fois on est ravi, des fois on est en dépression. Et tout cela conduit par nous. Circonstances. Tout l'a conduit des fois par nos circonstances, des choses qui nous arrivent dans nos vies. Oh! Des fois, on devient découragé parce qu'on est, tellement changé par ce qui nous arrive dans notre vie. C'est comme un enfant de 2 ans, un petit gars, une petite fille. Lorsqu'elle est heureuse, la petite fille est heureuse, elle est heureuse partout sur son corps, hein? Comme une des petites a fait ce matin. Heureuse, partout, ça démontre, partout, elle court comme une tornade, elle danse. J'ai vu, souvent, on va luncher dans notre auto au Grand Saut, d'où sont les sauts, puis on mange le sandwich. Puis, à un moment donné, j'ai vu des touristes sortir, il y avait 2 petites filles, ils ont sorti en dansant puis en sautant, ils étaient contents en tout cas, ils faisaient aller leur jupe et puis ils tournaient, puis ils étaient tellement heureuses. Puis lorsqu'une petite fille de 2 ans est heureuse partout, tout son corps le décrit, n'est-ce pas? Et c'est qu'est-ce qu'on voit, mais lorsqu'un enfant de 2 ans est fâché comme le petit gars, ben ça paraît la tête aux pieds aussi. Hein? Nous autres, on a eu 3 enfants. Le plus vieux, Samuel, des fois, à un moment donné, lorsqu'il avait 2 ans, il a commencé à faire des cris, à prendre des crises. J'étais à terre. Puis il prenait. Puis il criait. Puis ma femme a dit, Sam, ça ne marchera pas. Puis ça en allait. Ça n'a pas été long, il a arrêté ses crises. Il faisait ça tout seul, plus rien. Mais prendre des crises, c'est comme les enfants de 2 ans. Qui font des crises. Mais lorsque la maturité vient, lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on marche non seulement par les sentiments, mais on marche par la foi. Dieu nous enseigne ça, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous enseigne ça. La Bible, les paroles de Dieu nous enseignent cela. On ne marche pas seulement par les sentiments, que Dieu nous aide, si on marche toujours par les sentiments. Dieu nous enseigne à marcher par la confiance en lui. C'est contraire à ce que nous ressentons des fois dans nos cœurs, mais c'est une décision qu'on prend à cause de notre maturité qu'on a appris dans le Seigneur. C'est justement le point d'Exode chapitre 14, de faire confiance en le Seigneur, parce qu'ils étaient dans un cul-de-sac, un impasse. Ils étaient entourés comme des lapins, entourés par des loups, sans aucune aide pour eux autres. C'était le massacre. Peut-être, j'imagine, qu'ils pensaient au massacre de leurs enfants, leurs femmes, sans secours. Alors, c'était une chose terrible, mais, c'est un gros mot, mais, ils avaient un allié avec eux autres. Dieu était avec eux autres. Celui qui avait envoyé les fléaux en Égypte, celui qui les avait délivrés du Pharaon, celui qui avait apparu les protéger au travers le désert avec le pilier de nuage durant la journée, le pilier de feu durant la nuit, la présence de Dieu. On a chanté à propos de ça aussi ce matin, la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est là. Mais dans ce temps-là, c'était physiquement pour avoir le pilier de feu durant la nuit et le pilier de nuée durant le jour. Et Dieu leur avait dit par Moïse, il disait en autre mot, « Wow, peuple de Dieu, contrôlez-vous, peuple de Dieu. » Il disait, « Remplacez la frayeur par la confiance. Faites-moi confiance, entre mots, Dieu disait. Je vais combattre pour vous. Gardez le silence. Paniquez pas. Arrêtez d'être tellement dérangé. Et sachez que je vais combattre pour vous. » Alors, lorsque ces choses-là viennent dans notre vie, je sais, des fois, c'est dur, on veut perdre le contrôle. Mais Dieu a toujours un message pour nous de dire, « Je vais combattre pour vous. Garde le silence. » Ça veut dire, « Panique pas. » Ça veut dire, vous n'êtes pas sans espoir. Pourquoi? Parce que si vous avez placé votre vie entre les mains de Dieu, il y a toujours espoir. L'espoir de Dieu. Et mieux être dans les mains de Dieu. Alors, conclusion, c'est que la plupart du temps, nous ne pouvons pas changer nos circonstances, c'est vrai, ou on ne peut pas gagner nos batailles, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On fléchit les genoux. On fléchit les genoux et ensuite, on garde le silence. C'est le temps de voir la délivrance de l'Éternel. C'est le temps de savoir que l'Éternel combattra pour nous. Je veux vous laisser ce matin avec trois versets. Je vais demander à Frank d'avancer, s'il vous plaît. Si vous voulez venir, le prophète Jérémie, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Bon verset, hein? Hein? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Si Dieu est pour nous, amen! Qui sera contre nous? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen! Pas juste vainqueurs, pas juste vainqueurs. Plus que vainqueurs, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Dieu combattra pour vous. Et ça veut dire? Ça veut dire plus que vainqueurs, parce que c'est Dieu qui va la faire en vous. Alléluia! Êtes-vous content ce matin que vous ne pouvez pas rien, vous n'êtes pas obligé de rien faire? Juste crier à l'Éternel, juste garder le silence dans sa présence et savoir que Dieu va faire pour vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous sommes vainqueurs par... c'est quoi le chant? Nous sommes vainqueurs par le nom de Jésus. Amen. On se l'a-tu ensemble à chanter selon on l'a-tu? On l'a-tu sur lui qui nous a... aimé. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui a... Vous êtes tellement excité, vous avez vraiment la victoire dans votre vie. Y a-t-il quelqu'un comme ça ici aujourd'hui? Moi, je suis vraiment excité. OK, j'ai vu la main de... C'est...